LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Oui, ça, c'est une jupe. Alors, j'y connais pas grand-chose en tissu. Je pense que c'est une sorte de satin. Et je pense aussi que ça a plus d'un siècle. Et que ça a un peu séché, d'ailleurs. On voit bien que le jupon qui est en dessous, qui est intégré, il n'est pas neuf, quoi. Ça s'effrite un petit peu. Peut-être qu'il faut que je vous raconte d'abord ce que c'est.
Les vêtements de nos vies, un documentaire d'Emmanuel Paul, réalisé par Véronique Samouilov. Quatrième épisode, mes habits au musée.
Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la famille, mais cet immeuble a été construit par construit pas comme architecte, mais a été commandé par mon arrière-grand-père, qui était Artem Fayard, le fondateur de la maison d'édition. Le père de ma grand-mère. Voilà. Donc, il date de 1880, qui était la date de naissance de Blanche Fayard, ma grand-mère. Et elle habitait ici, jusqu'à sa mort. Mais en tout cas, moi, quand je l'ai connue, elle habitait cet immeuble, elle habitait au deuxième étage. Et elle avait, au septième, une chambre de réserve où elle avait mis des tas de choses. Et moi, je n'avais pas de raison d'y aller. À sa mort, ma mère, qui habitait aussi cet immeuble, a récupéré cette chambre de réserve du septième. Et elle a, à son tour, mis là-haut des trucs qu'elle ne savait pas où mettre. Et puis, moi, je me suis dit, je verrai ça plus tard, quoi. Jusqu'au jour où j'ai décidé de vider. Et puis, il y avait une malle très ancienne que je n'avais jamais ouverte.
J'ai un conseil à vous demander, m'avait dit Marie-Thérèse assise au bout de la table. Nous étions à Arras, on venait de commander une bière. Elle avait poursuivi, j'ai retrouvé une malle, pleine de vêtements, sans doute à ma grand-mère, je ne sais pas quoi en faire. Il y a là des robes des années 20, peut-être plus anciennes, je ne sais pas.
Quand j'ai découvert ça, la première réaction, ça a été de la surprise, puisque comme je vous ai dit, j'avais jamais vu ça avant. C'est comme plonger tout à coup dans une époque reculée, avec quelqu'un qu'on a connu, mais qu'on n'a jamais vu, évidemment, à cette époque-là.
Je lui suggérais d'entrer en relation avec le musée de la piscine de Roubaix, et de leur proposer une donation.
Alors les choses du fond, elles étaient comme vous les voyez là, c'est-à-dire on voit bien que ça a été abîmé par le temps. Il y a des choses qui étaient... Il y avait plein de fourrures qui étaient toutes totalement mitées. J'ai tout mis à la poubelle parce que ça s'effritait. J'avais l'impression d'avoir de la paille d'acier sur les pieds parce que ça partait en miettes. Et puis, il y a des choses qui sont parties en miettes. Je me souviens, il y avait une robe de velours vert qui... Moi, je ne mettrais pas une robe de cette couleur-là, mais elle était assez belle et je trouvais que ça faisait robe de théâtre. Et je l'ai sortie. Et le fait de simplement mettre la main dessus, ça se déchirait. Je la touchais à un endroit, ça se déchirait.
À ce moment-là, j'espérais juste une chose. Pouvoir approcher ces vêtements avant qu'ils ne rejoignent le musée, riches encore du souvenir de celles qui les avaient portées à l'aube du XXe siècle.
Et les mythes s'en étaient donnés à cœur joie. Et puis d'autres choses plutôt en bon état. Tout ce que vous voyez sur la table que j'ai préparée pour le musée de la piscine et qui sont des sous-vêtements, des choses absolument magnifiques. Et ça, c'est beaucoup mieux conservé. Ma grand-mère était née en 1880, s'est mariée à 18 ans.
Marie-Thérèse Champem, donatrice des vêtements de sa grand-mère.
Ma petite fille, je me suis mariée à 18 ans, ne fait pas comme moi, m'a-t-elle dit un jour à la fin de sa vie. Ce qui est certain, c'est qu'elle avait de la fortune, puisque son père, Artem Fayard, qui était venu d'Auvergne sans beaucoup d'argent, avait fait fortune avec la maison d'édition. que cette maison d'édition, c'était les deux frères qui en avaient hérité, parce qu'on ne va quand même pas donner une entreprise à une femme, d'autant qu'à la mort de son père, elle avait 16 ans, elle était un petit peu jeune. Donc elle, elle n'a pas eu la maison d'édition, mais elle a eu l'immeuble où j'habite encore. Je pense qu'elle ne manquait pas d'argent. En tout cas, elle avait visiblement des robes, des tenues de grands couturiers de l'époque. Mais je n'ai pas retrouvé de photos sur lesquelles on la voit avec ses vêtements.
Et cette robe de bal, années 20, avec sa plume, oui, son aigrette.
On voit que ça a été très porté parce que c'est quand même très abîmé. Il y a visiblement des taches de transpiration, je ne sais pas.
C'est une robe typiquement des années 20, tubulaire, oui. Bleu et or, avec une ouverture sur le côté avec une dentelle or, et sur l'autre côté une aigrette d'un bleu, presque un bleu clin, oui. Un bleu vif. Et on voit bien qu'il y a des traces de la robe, elle a dansé le Charleston avec.
Elle a dansé le Charleston avec. Alors, est-ce que c'est le frottement d'une bourse, d'un sac, ou est-ce que ce sont des traces de transpiration qui ont complètement effacé les fils dorés qui sont dans le tissu? On voit que ça a été porté, que c'est abîmé.
Mais la robe, elle existe encore, elle n'est pas du tout... Elle ne part pas en lambeaux, elle...
Non, il y a cette usure des fils d'or qui fait une tache foncée.
C'est quoi ça? C'est un manteau?
Ça, c'est une cape. C'est à peu près la seule chose qui serait encore métable.
Donc ça, c'est une cape bleu marine du soir, tout en soie, doublée de soie grège. Des petits passages pour les bras, un col assez large et des très légères broderies.
Bleu
marine aussi.
Ton sur ton, oui. Une cape de soirée, ça se porte pas beaucoup, ça se porte pas à la même la peau, donc peut-être ça s'abîme moins. Mais en tout cas, ça c'est en excellent état. Alors il y a une jupe de satin qui, elle, par contre, est en très très mauvais état.
Oui, elle est usée au niveau de la ceinture, ouais. Ça lui fait comme une béance. Mais la soie est extrêmement douce. Oh là là.
Et je vais l'enlever de son cintre parce que c'est en très 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 mauvais état.
La ceinture est presque mangée, comme si une souris était rentrée à l'intérieur, alors que c'est le temps qui a fait ce ravage-là. La taille est très 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 fine. Vu la longueur, on est quand même très avant la guerre de 14.
Il y a quelques années, j'ai participé à une exposition sur Dalida. Il était question d'y exposer ses vêtements de scène et de ville. La garde-robe de la chanteuse, décédée 30 ans auparavant, avait été acheminée jusqu'à un local réfrigéré dans lequel je devais fouiller. Les vêtements étaient empilés, mélangés, comme dans un entre-deux. Sortis des penderies et avant d'être exposés, ils attendaient d'être envoyés au pressing. J'étais seule, avec eux, avec des cartons de lettres où se lisait le nom d'un ancien président de la République, avec des chaussures usées par la danse, avec une trousse de toilette, des fossiles et une brosse à dents de voyage. À un moment, sans comprendre d'où venait ce geste, j'ai enfoui mon visage dans la penderie de Dalida. J'ai voulu sentir, toucher. Seule la finesse de la taille, 54 cm, m'a empêché d'essayer ses habits.
La question s'est posée, qu'est-ce qu'on en fait? J'ai pas envie de garder ça chez moi où ça va continuer à s'abîmer. Ce sont des choses qui ont une espèce de valeur historique plus que sentimentale. Bon, c'est drôle de se dire, bah tiens, ma grand-mère, elle a porté ça quand elle était jeune. Mais les garder chez moi, ça n'a pas de sens. Et puis, ça ne m'appartient pas à moi toute seule, puisque c'était ma grand-mère, elle a eu 3 filles qui ont eu chacune des enfants, des petits-enfants, enfin, bon. Il y avait, par exemple, un magnifique voile de mariée. Je vais pas vendre le voile de mariée de ma grand-mère qui a été porté par ma mère et sans doute aussi une de mes tantes. Enfin, c'est pas des choses qu'on vend. Ce sont des choses soit qu'on garde, soit on les donne. Et j'ai tout de suite pensé les donner à un musée. Et j'en ai parlé à mes cousins qui m'ont dit bah oui, c'est bien. Enfin, c'est une manière de rendre hommage à notre grand-mère et en même temps de, je vais dire très très cyniquement, de s'en débarrasser. On en a discuté et vous m'avez parlé de la piscine, que je connais bien sûr puisque j'ai vécu 20 ans à Lille, mais je ne savais pas qu'ils acceptaient des donations de vêtements anciens ou même récents. Et donc, j'ai tout photographié, je leur ai tout envoyé, j'ai rencontré la conservatrice qui, au vu des photos, m'a dit « mais il y a des choses magnifiques, oui, ça nous intéresse ». Et puis, bah, ça fait plus de 6 mois que cette affaire dure. Et quand j'ai discuté donc avec Sylvette Godichon, elle m'a dit « mais vous savez, nous ne prenons pas seulement des vêtements anciens de la génération de votre grand-mère, nous prenons des vêtements beaucoup plus récents ». Et elle m'a parlé de leur collection de robes de mariée, qui ne sont pas forcément des robes de mariée de grands couturiers. Et là, je me suis dit « mais... dans cette malle, j'ai aussi retrouvé la robe de mariée de ma mère, qui a dû être très belle. Et ça, j'ai des photos. J'ai les photos du mariage de mes parents. Et ça, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais de la robe de mariée de ma mère? Je vais pas la mettre à la poubelle. J'ai pas envie de le vendre. J'ai pas envie de le jeter. Je trouve que le confier à un musée, qui l'exposera de temps en temps pour témoigner de ce que pouvait, à quoi pouvait ressembler une robe de mariée en 1948, puisque ma mère s'est mariée en 1948. Bah, je trouve que c'est une belle fin.
Vous avez conservé une ou deux pièces des vêtements de votre grand-mère, là, de la malle, ou vous avez été tentée d'en conserver un?
J'ai conservé un petit chemisier de dentelle. Vous voulez que je vous le montre?
Oui.
Conserver ceci.
Le corsage était si étroit qu'on aurait dit celui d'une petite fille. Il semblait impensable, même la taille prise dans un corset, qu'il ait appartenu à une femme. Je comprenais que Marie-Thérèse ait eu envie de le garder près d'elle. C'était des dentelles d'une perfection d'un autre temps. C'était la belle époque de Marcel Proust, incarnée en un seul chemisier de couleur crème.
Regardez, touchez-le. Je trouve que
ce col.
Oui, oui, on a le droit de toucher. On n'est pas au musée.
Tant que ce sont des archives privées, on peut encore toucher. Non, mais c'est. Alors, on est sur un chemisier. Alors, quelle matière? Moi, je ne sais pas. Parce que c'est comme un.
C'est comme un tulle.
Un tulle crème. Tout est brodé.
Petites, et les petites baleines sur le col pour qu'il tienne bien droit sur le cou.
Qui tient bien haut, tout le devant est brodé de motifs floraux, manches légèrement ballon qui se resserre jusqu'à un petit réau de dentelle aussi sur les poignets. Là, on a à la fois presque les contours du corps de votre grand-mère, parce qu'on voit bien la finesse de la taille, les bras sont très petits. Mais en même temps, le corps a disparu. Peut-être qu'il faudrait le remettre dans une petite boîte avec du papier de soie, quand même, parce que si vous le laissez sur un cintre, ça aussi, peut-être demander tout à l'heure à l'équipe du musée de la piscine comment vous allez pouvoir conserver ça. Après, quand on met les vêtements dans les boîtes, dans les musées, il y a toujours un côté un peu linceul qui fait un peu peur, mais on refait même avec les formes de papier presque la forme du corps, ce qui fait qu'on a comme une apparition quand on ouvre la boîte d'un vêtement qui est encore presque porté.
Oui, mais alors ça, c'est le problème. Conservation ou plaisir? Parce que si je les mets dans une boîte, je n'aurai jamais le plaisir. Alors que là, quand j'ouvre mon armoire, j'ai le plaisir de la voir. Alors, il y a autre chose que j'ai gardé. peux vous montrer ça.
La sonnette de l'appartement m'avait surprise dans un geste coupable. En train de caresser le corsage de mes mains non gantées, pleines de danger pour les textiles. Comme une écolière prise en flagrant délit, je m'en excusais auprès de l'équipe du musée de la piscine. Sophie Bégel, Giulietta Rosa Gilles et Laura Chevrier. Elles venaient d'arriver pour procéder à l'enlèvement de la donation de Marie-Thérèse.
Bonjour, vous êtes l'équipe de la piscine ?
Oui, c'est ça.
Oui. Avec des grandes boîtes, là ?
Oui. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Tout
Bonjour.
Est là, il n'y a que ces boîtes-là.
On en a deux dans le camion si jamais il y a besoin. Mais...
D'accord.
Donc, là maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous avez apporté des grandes boîtes qui font que, quoi, 1m20 de long sur, 45 cm.
Plus grand, ça.
Plus grand. En carton. Et dedans, vous allez donc... emballer en fait les vêtements de la famille de Marie-Thérèse.
Je vais leur dire au revoir. Sylvette Godichon m'a promis que quand il y en aurait un qui serait exposé, elle me préviendrait, donc j'irai les voir. Ça sera très émouvant, je pense.
C'est toujours assez impressionnant, je trouve, de voir aussi les vêtements mis sur mannequin, en fait, parce qu'on redonne une silhouette humaine, une silhouette portée, en fait, ça redonne vie aux vêtements. C'est différent que de le voir à plat ou même dans les réserves.
Donc, si vous voulez me... Alors, la robe de mariée de ma mère, même si elle est sale et froissée, je ne sais pas comment faire. Ça, c'est en fait, ça, c'est le manteau qui fait traîne. C'est pour ça que c'est si long. Donc, je vais vous laisser faire. Ça, je pense que c'est un petit bustier... même pas sur la liste, vous prendrez si vous voulez. Et puis il y a des choses un peu diverses, et notamment ces magnifiques patins à glace. J'ai failli enlever les patins et garder les bottines de cuir qui sont superbes, je trouve, toutes doublées cuir. Ça, je pense que ma mère l'a porté, parce que c'était dans ses affaires à elle. C'est un déshabillé de soie et dentelle. Alors là, on revient aux choses de la génération d'avant. Ce sont plutôt des chemises de nuit et des mouchoirs. Chemises de nuit en dentelle, avec ces mini plis, des petits rubans roses. Ça, c'est aussi... Donc, c'est moi qui ai noté les choses, hein, parce que j'ai des pantalons, des chemises de nuit...
Il y a
des
cols aussi, non?
Il y a des cols.
Des
dentelles,
peut-être?
Oui. Oui, tout ça. Ça appartenait à ma mère. C'est un nécessaire de toilette en ivoire.
Ma robe en soie n'a rien en soi.
Avec
de déroutant.
Des choses pour les gants, pour
à
les
peine moulant,
avec des brosses, un miroir, un truc pour se polir les ongles.
Et quand je pousse, c'est reflet rouge,
bon, voilà.
Plutôt violet.
Ça peut vous intéresser. Je mets aussi. Là-dedans, il y a des étoles. Alors, la jeune mère recevait dans son lit les
fleurs
et se couvrait les épaules avec ces choses décorées de dentelle.
La famille,
au moment où on présentait l'enfant à la famille.
Baden-Baden, la Riviera, Monte-Carlo, la Belle Époque, l'Eldorado, les casinos.
Pas tout ouvrir, je sais même plus ce que.
Modèle, 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 petit chapeau, petit manteau, modèle nouvelle.
Robe crêpe de satin noir et rose pêche. Griffes blanches tissées noires et rouges sur la robe. Tampon rouge, été 1937. Maillot de velours de soie noire. Broderie à l'aiguille de tubes transparents à âme argentée, de miroirs ronds et de strass. Robe du soir en crêpe de soie jaune-vert, 145 cm de long, 84 cm de tour de poitrine, 65 cm de tour de taille. Numéro d'inventaire UF86-10-3. Situation en réserve.
Alors ça, c'est l'écriture de ma grand-mère à l'encre violette, six petits fichus festonnés. Je ne sais pas ce que vous ferez des six petits fichus festonnés.
Alors Marie-Thérèse, est-ce que vous voulez dire au revoir à la robe de mariée de votre mère?
J'ai vraiment l'impression d'être devant un cercueil. Ces boîtes étroites et longues. Ma mère était quelqu'un de très attentif aux choses, qui gardait les choses bien protégées. Et j'ai trouvé sa robe de mariée sale et complètement, même pas pliée, n'importe comment, dans cette malle. C'est, je sais pas, il y a un acte manqué quelque part à une génération ou l'autre, mais c'est vraiment très étrange.
Vous allez avoir du travail à la piscine hein, pour documenter toute la donation de la famille de Marie-Thérèse.
Alors que Marie-Thérèse reste à Paris, nous partons avec les robes de sa grand-mère, direction Roubaix et le musée de la piscine. Sylvette Godichon, chargée des expositions et des collections d'art appliqué, nous y attend. Les robes voyagent, couchées dans leurs longues boîtes de carton gris. Le musée, une ancienne piscine municipale des années 30, a gardé des traces de son passé. Les choses n'ont pas été effacées. Dans la salle principale, un plan d'eau, profond de quelques centimètres, fait ressurgir la vie antérieure du musée. On a presque envie de se baigner.
Ça s'est bien passé, Jeff, magnifique.
Eh ben oui, il y avait trois boîtes de remplies.
Oui, parfois on nous met des fardeaux sur les épaules. Hein, parce que les vêtements sont chargés de tellement de choses. Des gens disparus, des gens qui ont souffert, des gens, le dernier souvenir d'une grand-mère.
Sylvette Godichon, chargée des expositions et des collections d'art appliqué du musée de la piscine de Roubaix.
Il faut vraiment qu'on prenne à chaque fois le temps d'avoir une distance, parce que nous c'est un objet de musée, c'est un objet qui va prendre une autre valeur chez nous. C'est-à-dire qu'on trouve que les objets ont une histoire, mais on essaie de gommer absolument toute l'émotion qu'il y a autour. D'ailleurs, ils sont des fois surpris parce qu'ils nous disent « J'aimerais bien revenir avec ma petite fille, puis j'aimerais bien qu'elle le touche et tout. » On dit « Ah non, là, c'est fini. »
C'est fini.
On n'y touche plus. C'est un objet de musée. Il y a une espèce de dichotomie entre... Alors, c'est surtout avec les vêtements. Alors, beaucoup de choses qu'on donne à des musées. Mais le vêtement, c'est tellement, tellement intime.
Là, on a touché. On a beaucoup touché.
C'est la dernière fois.
On a touché.
Maintenant, on va vous mettre des gants.
J'ai même demandé à Marie-Thérèse si elle voulait bien respirer une dernière fois les selles de la robe de mariée de sa mère. Parce que il y a un rapport charnel quand même aux vêtements et puis dans la manière de dire adieu à un vêtement.
C'est très amusant parce que les vêtements, on nous dit tout le temps qu'on nous les confie. Quand on nous donne un tableau, on nous le donne. Ou la vente, enfin bon, il n'y a pas du tout le même rapport. Donc, on dit, c'est au musée, ça va rentrer, ça va faire des déguisements, ça va partir. Et c'est très étonnant parce que quand on leur dit, ah non, ça va être protégé, plus personne n'y touchera, ça va être exposé, ils le voient d'une autre façon, je pense. Ils voient que.
Est-ce qu'il n'y a pas de regret?
Rarement. J'ai pas eu de donateurs qui reviennent en disant finalement j'ai réfléchi.
Je veux plus,
je veux le reprendre. Ils se sont débarrassés d'un fardeau. Ils se sont débarrassés de l'objet qui était quand même parfois encombrant. Alors il y a aussi des donateurs qui nous disent faites-en ce que vous voulez. Parce qu'ils savent que l'objet va continuer à vivre d'une certaine façon et que eux ne les ont pas jetés.
En fait, derrière tout ça, c'est toujours la question de la mort, la disparition. On veut toujours garder une trace. Si c'est pas de soi, on veut garder la trace de ceux d'avant.
Oui. Et puis c'est intangible. C'est des souvenirs qui sont. C'est tellement dans l'intime, tellement dans des choses qui sont un ressenti d'un moment, d'un instant. Très volatile et on reçoit comme ça des morceaux d'histoire. C'est souvent très romanesque. Moi j'ai le souvenir, alors vraiment quelque chose de très très fort, d'une dame m'apportant trois valises bourrées de vêtements, mais de très très grande qualité, jusqu'aux années 40, d'elle, de sa grand-mère, de sa mère. Et elle me les montrait de façon assez désinvolte. Elle sortait des robes sublimes qu'elle me montrait de façon très désinvolte. Et au fond d'une valise, emballée dans du papier de soie, elle me sort un petit corsage très simple, en lin, très joli, mais très très simple. Et elle me dit, mais en une seule phrase, vraiment en une seule phrase, c'est le corsage que ma mère portait quand elle est morte dans un accident de voiture, dans une voiture dans les Flandres avec le cousin de mon père. Point. Et je lui dis, mais vous aviez quel âge ? Et elle me dit, 3 mois. Donc c'est vraiment une histoire qui est totalement étrange. Des choses qu'elle imaginait, qui étaient peut-être fausses, qui étaient peut-être vraies, je sais pas. Et ce vêtement, il est seul dans une... voilà, on le montre jamais, mais il y a une force. Et je me rappelle une citation de Virginia Woolf qui disait « Le vêtement n'a pas de réalité, je crois que c'est dans Orlando, mais il représente quelque chose qui... c'est le symbole de quelque chose qui est profondément en nous. »
Tous ces éléments de l'intime, justement, est-ce qu'on peut leur faire une place dans les expositions de mode ?
Moi, j'avais pensé, effectivement, alors c'est dans des grands projets qu'on... mais je m'étais dit que ça aurait été assez intéressant de faire une exposition de vêtements qui parlent, c'est-à-dire dire que le vêtement se raconte, et se raconte ou s'invente, hein. C'était pas du tout... mais ça pourrait être intéressant qu'un vêtement raconte sa vie, et bon, voilà...
Moi, je suis persuadée que les vêtements parlent.
Ah, mais bien sûr. Et ils parlent plusieurs langues, parce qu'ils ne s'adressent pas à vous de la même façon qu'à quelqu'un d'autre. Mais nous, on le voit à l'atelier, hein. On reçoit des vêtements, on n'a pas toutes la même façon de les appréhender, même de les toucher, de les traiter, comme on n'a pas la même façon de regarder une sculpture de Camille Claudel, hein. C'est exactement la même chose. Mais effectivement, avec cette part en plus de cet objet qui a touché la peau, et on nous confie quelque chose qui est dans la sensualité. Et là, on vient de recevoir une donation de quelqu'un qui est décédé et que je connaissais bien. Son parfum, c'est vraiment... Je me dis, il faut absolument que ça parte, parce que c'est... Alors là, je suis plus professionnelle. Là. C'est vraiment quelque chose... Je l'ai vraiment en pleine... et je comprends que certains donateurs aient encore besoin de une dernière fois de respirer cette odeur de quelqu'un qu'ils ont aimé.
Nous quittons le café du musée et nous partons retrouver nos robes qui ont été déchargées du camion et emportées dans leur boîte de carton.
Non, c'est nos réserves.
Elles nous attendent, au frais, dans ce que l'on appelle une salle de transit. Pas de lumière de jour, une fraîcheur de morgue, le contraste est saisissant avec ce que nous venons de quitter, l'appartement chaleureux de Marie-Thérèse. Amélie Boron, assistante régie, nous accueille en blouse blanche. Le ton est donné.
Où sont stockés les objets qui arrivent dans le musée, qui ne sont pas encore prêts à partir dans les ateliers et les objets qui partent. Déjà, le fait qu'ils passent dans ce sas, ça les rend... Voilà, vous avez été chez la donatrice, c'est plus du tout la même ambiance. Donc voilà, il y a déjà un sas où il y a des encadrements, où il y a du papier craft, du papier bulle, la boîte. On a déjà gommé tout ce qui était souvenir du lieu d'où vient cet objet. C'est à la fois un sas de très, très concret. Il y a des objets qui, ici, vont être examinés et on va se dire « Non, ça ne rentre pas dans les réserves, ça. Ça doit partir pour une désinfection. Beaucoup de choses partent dans des congélateurs pour... »
Les mythes ?
Il n'y a pas que les mythes ou sous vide, ces objets qui ne vont pas tout de suite partir dans les réserves. C'est en transit. Ce n'est pas encore un objet de musée, ce n'est pas encore une œuvre d'art. C'est-à-dire que tout est regroupé ici pour ensuite prendre la route.
C'est un sas de décompression.
Voilà, mental, physique, émotionnel. Là, il n'y a plus normalement de raison qu'on ait d'émotions autour des objets. Un vêtement, c'est un fantasme. Il y a vraiment, on le fantasme complètement. on se charge seul de ces, cette émotion qui, des fois, ne le mérite pas, vraiment, parce qu'on a, on nous donne parfois des vêtements qui sont très simples, avec une émotion, et on se dit, sa grand-mère, il devait l'aimer, mais tellement pour aimer tellement cette robe, alors que c'est une robe qui a été achetée chez une petite couturière dans un quartier de Lille. Mais les, ces vêtements racontent des histoires du donateur, pas du tout de la personne qui a porté le vêtement. Alors quand il y a des histoires très fortes sur certains objets, ça on l'écrit, enfin, on met quelques phrases, on ne fait pas un roman autour, mais c'est pas, si on avait un vêtement qui venait de quelqu'un de très célèbre, qui a porté pour vraiment une occasion très... Ça, effectivement, ça serait noté. Là, c'est des histoires familiales pour la plupart du temps, c'est des histoires très, très intimes. C'est vraiment le vêtement, pour moi, quand je pense au vêtement, c'est vraiment l'intime qui me vient absolument. On a des histoires assez drôles, hein, quelqu'un qui nous donne très régulièrement ses vêtements, vraiment de marque, et quand il entreprend un régime drastique, il va maigrir, donc il nous donne des vêtements qui porte plus, parce que puis après il reprend des kilos, donc c'est, on lui dit non mais on peut pas rendre les vêtements, hein.
Mais vous, après, qu'est-ce que vous en faites de cette charge émotionnelle, et comment vous lavez de ça?
On se lave pas, c'est des strates qui nous enrichissent sur la connaissance de l'être humain. C'est des rencontres, hein, c'est souvent des rencontres. Il y a des moments qui sont durs, hein, parce que on nous raconte des choses assez dures aussi. Bon, il faut savoir écouter. Alors, je suis très bavarde, mais quand on me donne des objets, je sais écouter aussi les histoires. Alors, en plus, l'importance du musée comme Roubaix, c'est pas un lieu anodin, c'est pas une ville anodine. On a quand même dans notre ADN des choses. Quand on a fait ce musée, on a le programme culturel et scientifique qu'on est un peu tous obligés d'écrire, s'appelait un musée solidaire. Et dans la solidarité, il y a ça aussi, c'est écouter les autres. Et il y avait aussi cette envie qu'il soit ouvert et que oui, on nous raconte des histoires. Moi, je rappelle une dame qui habitait dans une petite maison, qui ne pouvait pas se déplacer, donc j'avais été chez elle, une petite maison ouvrière de Waterloo, qui est vraiment tout près d'ici, et qui donnait sa robe de mariage parce qu'elle avait très peur que ses petits-enfants fassent des chiffons. Elle s'est mariée en 45, et c'est une robe qui était vraiment en rayonne, vraiment plein de taches. Et c'était toute une histoire, parce que elle était ouvrière dans une usine, et en cadeau, toutes ces copines ouvrières de l'usine lui avaient donné leur ticket de rationnement de tissu, parce qu'elle voulait une traîne. Et donc, pour s'acheter un tissu qui était vraiment un tissu, c'est pas de la soie, hein, c'était vraiment... Et cette robe, pour elle, elle était chargée de ça. C'était pas son mari, hein, c'était toutes ces copines de l'usine qui avaient donné... je trouve que c'est tellement beau. Après, la robe, je crois qu'on l'a peut-être jamais exposée, parce qu'elle est dans nos collections de robes de mariée, mais... Parce que là, il faut raconter l'histoire. Et ce que je vous disais, moi, j'avais pensé faire parler les robes, vraiment, qu'elles racontent. À côté de ça, on pouvait mettre la robe d'une dame très, très grand nom du Nord, qui m'a donné sa robe de bal, qui est une très belle robe carvène. Et c'était la robe, le bal où elle rencontrait son mari. Voilà, puis elle le raconte avec la même émotion que cette dame qui, dans son petit coron, me racontait, et c'était magnifique. Et l'émotion, elle était intacte. Que ce soit quelqu'un des 100 familles du Nord ou une ouvrière de... Elle, et puis je me disais, ça serait génial de les mettre côte à côte sur un canapé et de leur dire, allez, racontez.
Ma robe en soie est aux abois tous les samedis. Quand je l'enfile, je sens ses fils qui s'émoustillent. Ma robe en soie n'a rien en soi de déroutant. Sauf dans mes rêves, tu la soulèves si tendrement. Ma robe en soie, tu la soulèves si si tendrement.
Il y a un phénomène qui est quand même assez intéressant. Alors, j'en parle parce que ça, c'est quelque chose qui me touche là, personnellement, mais depuis hier.
Farid Chenoun, historien de la mode.
Suite à un mail que m'a envoyé une amie. C'est le fait de donner ses vêtements à un musée. Là, il y a de la matière. Parce que on transmet quelque chose qui est enregistré, qui est validé, qui a une existence réelle, qui est reconnue, etc. Et à quoi correspond ce geste qui consiste à faire passer des vêtements intimes et qui relèvent d'une garde-robe personnelle à une collection publique où il y aura des traces de vous d'une certaine manière, parce qu'en plus de ça, maintenant, aujourd'hui, chaque vêtement est accompagné d'une espèce de biographie, tout ça. Ça, c'est quand même assez mystérieux. Qu'est-ce qui se passe quand on accepte de se délester? Est-ce qu'on se déleste? Est-ce qu'on se libère? On a le sentiment, au contraire, de faire un véritable don, plus qu'une donation, ou de transmettre quelque chose? Là, il y a plein de... Dans ce cas très, très, très périmétré, hein, c'est très clair comme périmètre d'intervention. Je trouve que c'est un truc super intéressant.
Mais comment ensuite le musée, quand il a envie de vouloir faire une exposition, comment il va faire ressurgir cet intime travers le vêtement?
D'abord, il faut faire attention à cette histoire d'intimité. Quelle est la différence entre intime et personnel, par exemple? Quelle différence vous faites? L'intime, c'est quelque chose qui a vocation à ne pas être montré, dit ou révélé. Est-ce qu'on parle de l'intimité du corps ou est-ce que l'on parle de l'intimité, c'est-à-dire un monde à soi, qu'on n'ouvre pas à n'importe qui?
Donc peut-être qu'au musée, ce qui rentre, c'est du personnel. Nous retournons à Roubaix. Dans le monde charge, je sens les robes qui s'éloignent. Elles s'apprêtent à être examinées sous toutes les coutures, presque à la loupe, par les équipes de conservation. On prend des notes, on met des gants, on mène l'enquête. Une forme d'archéologie vestimentaire se met en place. Chaque accident, tache, trou, manque, est un signe d'un temps passé à décrypter au présent.
Décaler le portant.
C'est vrai qu'il s'est déjà passé un truc depuis hier. On la voit hier sur le portant dans le salon de Marie-Thérèse, sur son cintre. Et puis là, elle est étalée sur votre table comme si, je sais pas, comme si vous alliez la scanner, comme si vous alliez... C'est déjà plus la même, hein. C'est vrai que...
Il y a une évolution du statut de l'objet, en fait. Enfin, même au sein du bâtiment, vous passez par la salle de transit, qui est une zone de tampon, et puis ensuite l'atelier textile, où l'objet, effectivement, est étudié, etc. Et ensuite, la réserve, où là, ça devient un objet patrimonial, conservé, puis ensuite exposé.
Donc là, par exemple, qu'est-ce que vous vous dites quand vous...
La première chose, c'est le style, le vêtement. On arrive à la dater, à savoir. Mais après, on va voir l'état. C'est très trivial. Hein. C'est vraiment ici, c'est un laboratoire. C'est pas une table de dissection, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est un objet qu'on va étudier. Et là, on commence à voir qu'il y a des taches, donc... Quelle est l'origine? Quelles sont ses taches? Bon, est-ce que ça peut s'étendre? Est-ce que s'il y a juste des taches, des trous, tout ça, ça doit être vu et noté? Ça n'enlève rien à l'objet, mais pour nous, c'est important d'avoir tous ces renseignements.
Comme un corps?
Absolument, mais c'est absolument comme les lumières sont éteintes, mais j'ai l'impression toujours d'être dans une salle à la morgue. Hein.
Ça ressemble quand même à ça. Parce que j'imagine que vous allez le retourner à un moment. Il est sur
les pas. On a les outils, on a tout ce qu'il faut.
On a eu des masques très longtemps. Là, on les a plus, mais bon, voilà.
Mais sincèrement, je pensais pas qu'on obtiendrait si vite ce résultat presque désincarné.
Oui.
C'est fou. On s'est vu hier. On a On a vu le modèle. Marie-Thérèse nous en a parlé. On n'a même pas fait attention aux tâches parce qu'on regardait complètement autre chose. Et là, il est déjà parti. En fait, le vêtement, il est quand même dans vos collections, mais tout ce qui était de son intimité s'est déjà éloigné de nous.
Moi, je trouve que l'exemple le plus... C'est au-delà du vêtement. Je me rappelle de quelqu'un donnant une cafetière. Vous savez, les cafetières italiennes, qui est vraiment un design important. Quand on l'a posée sur, il y a quelques années, c'était plus une cafetière. On le voyait. Et là, il n'y avait même pas d'histoire de sensualité ou de choses comme ça. Le monsieur nous a apporté une cafetière dans un sachet. On l'a posée. Et là, on circulait. Vous avez vu, on circulait.
On est toutes autour de la table. On ose à peine, on est à presque à un mètre de l'objet. Il y a quand même quelque chose de l'existence de l'objet, qu'il soit cafetière ou qu'il soit, oui, ou qu'il soit vêtement, qui en impose.
Vous avez voulu quoi?
Alors, il faut partir.
Ça vous fait tellement plaisir.
L'amour.
Et à moi. Ça me fait tellement plaisir.
Pourquoi?
C'est la peine.
Quoi?
Et maintenant? Pourquoi chez lui?
Dans les réserves de Galliera, comme dans celles de tous les musées de mode, les vêtements par milliers attendent. Il est impossible de porter à nouveau les costumes collectionnés par les musées. Les règles de conservation l'interdisent. C'est une contrainte qui n'a pas pour seule vertu de préserver l'état des textiles tous fragiles, elle met aussi à l'abri de toute tentation de déguisement. Car les corps ont changé de décennie en décennie, rendant obsolète et dérisoire le socle épidermique d'origine. Pour manipuler le vêtement endormi, le conservateur et le restaurateur font œuvre de préciosité. Leurs mains, gainées de gants de coton blanc, effleurent le tissu. Avec mille précautions, elles se saisissent d'une manche ou d'une bretelle, selon un vocabulaire inusité et maniéré qui n'appartient qu'au monde secret des réserves. Olivier Saillard, Tilda Swinton, The Impossible Wardrobe. Nous quittons Roubaix pour Paris, toujours dans notre désir d'explorer l'intimité des vêtements. Nous nous enfonçons dans les réserves du musée Galliera, musée de la mode de la ville de Paris. Des chaussons aux pieds, comme ceux pour pénétrer une crèche ou une salle d'hôpital.
Essayez-vous là, si vous voulez. Pour vous.
Nous avons rendez-vous avec une robe de Pierre Cardin des années 60. Et c'est Alexandre Sanson, du musée Galliera, qui nous guide.
Alexandre, vous nous emmenez directement voir la robe ?
Oui.
La robe appartenait à Madame Hélène de Günzburg, une grande famille parisienne. Lorsqu'elle en fit don au musée, Hélène de Günzburg prit soin de transmettre également un essai autobiographique sur son rapport à cette robe. Louise Valentin en a fait un objet d'étude de master de l'EHESS. Elle est avec nous pour découvrir la robe.
Vous êtes déjà venue, non, Louise, ici ?
Non, pas du tout. C'est la première fois. C'est la première fois que je vois la robe ici. Donc, je suis très contente.
Il y a un petit battement de cœur, quand même ?
Oui, un petit peu. Les photos, c'est quelque chose, mais la chose réelle, c'est pas...
Sur un rose qu'on dirait rose tyrien ou indien, qui s'approche exactement du rose Caparelli, c'est-à-dire du Shocking Pink, qui est en fait un rose tyrien, avec un rose avec beaucoup de violet dedans, et un tout petit peu de jaune, et donc qui illumine véritablement. Voilà, on est vraiment sur ce rose Shocking, peut-être un peu plus terne encore que Caparelli.
Alexandre Sanson, responsable des collections haute couture à partir de 1947, et des créations contemporaines du musée Galliera.
Donc Cardin... à la fin des années 60, et on est sur une robe extrêmement classique pour justement la production de Pierre Cardin. Il y a un très beau travail ici de pinces justement pour retrouver la taille, le creux de la taille et la poitrine en une seule pince, donc une pince en forme qui est très belle. Et on a justement ce décolleté qui est souligné de strass de cristaux véritables. Alors peut-être Swarovski, hein, on ne le sait pas, il y avait d'autres producteurs de cristaux à l'époque. En tout cas, on est vraiment sur une production de couture quand on voit le niveau de finition de la pièce qui est entièrement, intégralement biaisée à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que tous les bords sont couverts de petits biais pour pas qu'ils s'effilochent. On a même des pattes de soutien-gorge pour retenir le soutien-gorge. On a une doublure en plongée de soie d'une couleur un peu plus framboise, avec tous les coutures, réserves de couture internes qui sont festonnées et surfilées à la main. Donc on est vraiment sur un modèle où il y a vraiment un travail de très fort, typique de la haute couture, typique d'une production en couture très classique de cliente. Et donc l'étole qui est portée avec le modèle, qui est quasiment en état parfait, hein, qui est un tube à une couture. Voilà, on est sur un grand rectangle d'étoffe, de crêpe, de la même couleur que la robe. Ce qui correspond très très bien à la haute couture parisienne, justement trouver cet équilibre dans le fast. Au Palais Galliera, on a beaucoup de donations. On a eu la chance d'avoir des donations historiques de femmes de garde-robe. Des donations qui se sont taries, hein, dont le rythme s'est tari depuis 10 ans maintenant. Mais on a quand même la chance d'avoir de dons de grandes familles. Et en fait, j'ai été très surpris en arrivant au musée de voir que c'était Madame Pierre quelque chose. Mais c'est jamais Madame avec son prénom, son nom de famille. C'est, voilà. Et qu'il y avait très, très peu de travail biographique fait sur ces femmes. Comme si le fait qu'elles soient femmes d'eux les réduisait à ce statut-là. Et en fait, malheureusement, aujourd'hui, et heureusement aussi, on se trouve en face du problème des provenances. C'est très important dans un musée de savoir d'où vient la pièce, quelle a été son histoire. Et donc, je refais ce travail à ma petite échelle de réidentifier ces femmes. Et donc, on a eu effectivement une enquête menée sur une donation d'une Madame A de Gainsbourg. Et je ne savais pas qui était ce A de Gainsbourg. Il y a beaucoup de pièces de Saint-Laurent, beaucoup de pièces de Dior, voilà, vraiment une très très belle donation. Et donc j'ai commencé à travailler, et grâce au soutien du musée Saint-Laurent, qui conserve notamment des registres de numéros de griffes, j'ai pu identifier la commande de Madame Antoinette de Gainsbourg. Donc, j'ai enfin pu donner un prénom à cette femme, ça faisait des années que je cherchais. Et donc Antoinette de Gainsbourg, et ben c'est simple, j'ai cherché qui était sa fille, j'ai appelé sur les pages jaunes, tout simplement, et j'ai trouvé Alix de Gainsbourg. Et donc j'ai appelé Alix de Gainsbourg, qui m'a très gentiment répondu, et qui m'a dit oui, c'était bien ma mère, Antoinette de Gainsbourg. Et donc j'ai pu ainsi trouver des dates de naissance, des dates de mort, ce qu'elle faisait dans la vie, des photographies. Donc j'ai pu identifier, et puis j'ai vu un moment que dans cette donation, il y avait une robe qui était portée apparemment par sa fille. Donc c'était pas la robe d'Antoinette de Gainsbourg, c'était un ensemble de Pierre Cardin, c'était pas une robe, qui était un ensemble d'une robe, d'une étole et d'une paire de sandales. Et donc je me suis dit, monsieur Forman, est-ce que c'est vous, la fille qui apporte? Elle fait non, c'est ma sœur Hélène de Gainsbourg. Et quelle fut ma surprise de découvrir qu'elle avait effectivement écrit un texte qu'elle n'avait jamais publié sur la soirée, l'unique soirée où elle a porté cette robe, mais surtout l'inconfort et les mauvais souvenirs liés à cette pièce-là, ce qui est unique quasiment dans l'histoire du musée.
Est-ce que Louise, est-ce que vous auriez un petit bout du journal d'Hélène de Gainsbourg avec vous là? Est-ce que, puisqu'on est devant sa robe, est-ce que vous voulez bien nous en lire un petit extrait?
Oui, tout à fait. Donc, ce serait le passage au cours duquel elle décrit simplement cette robe. Donc, ça commence ainsi. La saison des bals commençait en juin cette année-là. L'événement serait le bal de Ferrières et nous étions invités. Ma sœur s'enfonçait dans son délire affamé, et je préparais, quant à moi, mes examens de fin d'année. Mais il fallait choisir pour chacune une robe pour le bal. Ma mère choisit pour moi une robe longue en soie rose fuchsia, de chez Pierre Cardin, droite jusqu'aux pieds, très légèrement cintrée à la taille, haute sur le devant, jusqu'autour du cou et très décolletée dans le dos. Tout autour du col, plusieurs rangées de perles en strass rose devaient décorer l'ensemble. Bras nus, je portais des gants très longs jusqu'aux coudes, en cuir souple et fin rose, et des escarpins pointus à petits talons recouverts de la même soie rose que la robe. J'acceptai résigné les essayages interminables dans la boutique ou dans ma chambre. Je me sentais ridicule, mais je n'avais aucune envie de chercher une autre robe, d'aller avec ma mère dans d'autres boutiques, de procéder à d'autres essayages.
Mm-hmm. 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 encore si plein d'espoir. J'avais cru que la vie n'existerait pour moi qu'en étant avec toi, merveilleuse folie. Tout en dansant, tu viens d'accrocher mon jupon blanc. Un soir au plein d'espoir, on s'est dit, je vous aime. La soir comme l'amour se déchire un beau jour, c'est l'histoire de toujours. La soir comme l'amour se déchire un beau jour, c'est l'histoire de
Alors, et vous, Louise, comment vous arrivez dans cette histoire d'Europe de Pierre Cardin et de ce journal ?
Donc, j'étais en train de faire mes recherches de terrain, donc beaucoup d'entretiens, beaucoup de discussions, et j'ai discuté avec Alexandre, et il m'a parlé de ce texte, et donc il me l'a envoyé. J'ai demandé à Madame de Gainsbourg si elle était d'accord pour que je l'étudie, pour que je travaille dessus. Et ce texte est très intéressant parce que c'est un témoignage qui relate tout un bal et toutes les préparations de ce bal. Donc on a une mise en contexte de la robe qui éclaire en fait l'objet vêtement comme un objet vécu.
Et qu'est-ce qu'on fait, Alexandre Sanson, de cette intimité telle que décrite ou telle que les informations qui sont apportées par ce journal intime par rapport à cette robe? Comment est-ce qu'on... on coopère avec l'intimité pour les expositions de mode?
Alors, on les compile, on les archive précieusement, on les lie aux vêtements. Quand j'ai eu le bonheur de découvrir ce texte, je l'ai immédiatement fait imprimer, mis dans la bibliothèque, lié à l'objet sur notre base de données pour que n'importe quel chercheur, et c'est Louise est la toute première, la pionnière, puisse justement lier dans son travail cette intimité, qui est une intimité que je souhaite, moi, développer avec chacun des donateurs du musée, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Et effectivement, chaque donateur maintenant est appelé, et je le souhaite à chaque fois, de documenter, soit de se rappeler de la soirée où il l'a porté, du moment où il l'a porté, où elle l'a porté, et pourquoi, et s'il y a des souvenirs particuliers. Voilà, là, je sais que nous allons recevoir bientôt un nouveau don d'Anémone Giscard d'Estaing, notamment de la garde-robe du président, et de la sienne, dont nous avons déjà une très très grande partie au musée. Et donc l'idée, ce serait justement de retravailler sur ces robes qui sont liées à des événements de l'histoire de France, de l'histoire contemporaine, mais également d'une histoire personnelle qui est toujours intéressante de garder.
Et il me semble que tout ce travail que fait Alexandre, d'essayer de comprendre comment ont été utilisés, vécus, pensés, compris ces vêtements lorsqu'ils ont été portés, permet ensuite, dans un second temps, de leur accorder finalement une vie, en tout cas une sorte de continuité que ces objets ne pourraient pas avoir autrement. Si on n'a pas ces informations-là, ils ne sont que des documents parmi d'autres. Et dans ce cadre-là, justement, ils ne sont pas que des documents, ils ne sont pas juste des archives, c'est autre chose, un vêtement qui a été vécu, qui a appartenu à quelqu'un, et donc il y a aussi l'aura, je pense, qui subsiste, une forme d'aura de la personne. Après, tout dépend évidemment de la manière dont ce vêtement a été vécu auparavant.
Et le musée, c'est le lieu de la mémoire. C'est-à-dire que nous, on fait ce travail de... Vraiment, les gens sont toujours étonnés quand je dis « Mais donnez-moi vos dates de naissance, donnez-moi vos dates de vie. » Enfin, je me renseigne sur eux, en fait. Et ils sont toujours très étonnés. Mais je dis « Mais j'ai besoin de savoir ça. J'ai besoin de savoir quand est-ce que vous avez porté ce vêtement. » Donc, je suis très intrusif. Après, c'est une information que, s'ils le souhaitent, peuvent rester confidentielles. Mais je trouve très important de contextualiser. Donc, au contraire, moi, je lutte pour la personnalisation du vêtement au musée, et nous ne faisons d'ailleurs que ça. Même une robe que j'achète, je suis très pugnace, et donc je demande qui a porté, de se renseigner. Si la personne oublie, je vais recontacter les gens, je veux savoir exactement qui parle. Et s'ils peuvent avoir leur aussi de provenance et d'honnêteté de la provenance, on ne sait pas si cette robe peut être volée, c'est comme un tableau, ce sont des œuvres qui sont liées à des humains. Et c'est ça que le vêtement est un médium artistique merveilleux, parce que c'est les seules œuvres du patrimoine qui sont liées au temps, au corps et à l'humain. Le vêtement, il s'incarne vraiment en quelqu'un. Et ce qui est très beau maintenant, c'est qu'on n'a plus ces corps et on voit ces objets qui sont désincarnés, mais ils ne sont pas dépersonnalisés.
Donc là, on dit au revoir à Hélène.
La robe d'Hélène qu'elle a portée quelques heures dans sa vie, vraiment quelques heures, hein, je pense moins de 5 heures à peu près.
Et une Hélène qui ne s'est pas trop aimée dans cette robe-là, donc c'était pas vraiment Hélène finalement.
Une robe mal aimée.
Toujours se rappeler qu'habiller n'est pas déguisé. Jean Patou.
De moi, quand j'entrerai dans ce parc, surpris, séduit ou bien déçu, peut-être que j'irai à pied, peut-être que ça me détendrait. Je mettrai la robe rouge sera très bien, un peu ouverte sur mon destin. Sera-t-il tout aussi doux?
Merci à Marie-Thérèse Champem, Louise Valentin, Alexandre Sanson, Farid Chenoun, Sylvette Godichon, Sophie Bégel, Giulietta Rosas-Gilles, Laura Chevrier et Amélie Boron. Prise de son Clément Vuillet, Florent Layani, Valérie Lavalard et remerciements tout particuliers à Yves Lehors, dont c'était le dernier reportage avant son départ en retraite. Mixage, Valentin Azan. Documentation, Anne-Lise Signoret. Attaché de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. C'était Les vêtements de nos vies, quatrième épisode, Mes habits au musée. Un documentaire d'Emmanuel Paul, réalisé par Véronique Samuilov.
Et avec vous, je me sens bien.